une araignée sur le micro. Alors voilà, on est vraiment dans la forêt vierge.
Un dromadaire sur l'épaule, Cyril Desprats et Monsieur T.
Bonjour à tous, bienvenue au Pérou avec tout à l'heure un téléphone en direct de Lima avec une collègue, Christelle Barbier, qui nous donnera des nouvelles de la capitale péruvienne. Avec tout de suite le dernier feuillet du carnet de route de Stéphane Herzog en pleine Amazonie.
Nous sommes à Lagunas et vous partirez en mototaxi vers Tibilo. C'est l'entrée, c'est en fait le poste de vigilance Santa Rosa de Tibilo, c'est-à-dire c'est l'entrée véritable à la réserve nationale Pacaya Samiria. Y avec Warren y uno, dos guides de plus, vous prendrez le canoë, dos canoës, vous partirez por ici, le Tibilo, la petite rivière, jusqu'à demain, como il y a beaucoup de l'eau, Warren vous amènerait jusqu'au la Caño Panteón, ici. Demain, il faut amener des choses pour les moustiques, hein, Après, il faut amener aussi des bottes, des petits matelas, des petits sacs à dos, parce que les canoës, c'est petit. Et lui, Warren, il se va occuper de faire les achats pendant le petit matin pour votre nourriture.
Départ en expédition aujourd'hui avec vous, Stéphane Herzog. On est vraiment au fond de la forêt vierge. En tout cas, on va y aller. Vous êtes avec qui?
Alors, on est avec d'abord le guide en chef qui s'appelle Warren Kokinche Sorin. Donc, un mélange savant de mots indiens et de mots occidentaux. Il est accompagné par Aladino, ça ne s'invente pas, qui est un aide-guide, et par Michael, un tout jeune assistant-guide, qui va surtout ramer, il ne va quasiment pas desserrer la mâchoire pendant le trajet, il est très timide. Voilà, on est avec ces trois guides qui vont nous emmener sur le fleuve Samiria.
À quoi est-ce qu'il ressemble ?
Alors, Warren, il est à moitié indien Kokama, donc indien de la région de Lagunas et de Yurimaguas d'ailleurs, et par son père, indien de l'Équateur. Donc, c'est un métis dont le père est venu travailler et récolter le caoutchouc dans les années 40-50. Et bien, c'est des gens qui sont relativement petits, avec des pommettes saillantes, qui ont la peau basanée, des cheveux absolument noirs, nuit profonde, et qui ont des grands sourires, et puis une grande simplicité, une grande gentillesse, hein, ce qui dénote un petit peu les habitants de l'Amazonie. C'est vrai qu'il y a une certaine langueur, une certaine, pas naïveté, mais une certaine ouverture qui est très agréable et que Carlos Palomino, qui est avec nous, adore. Et c'est pour ça qu'il aime toujours revenir dans cette région. Voilà, un gros poisson.
Arawana.
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 Arawana. Premier grand poisson. Donc ce qui est fabuleux, c'est que dès qu'on est un petit peu enfoncé dans la forêt, il y a une grande fraîcheur tout d'un coup. À cause de l'ombre, à cause de la proximité avec la rivière.
En el mes de enero. Enero, febrero, marzo, abril. Por acá ya no se ve tierra. Todo es agua.
Dans les mois de janvier, février et mars, les eaux sont très hautes et tous les animaux qui sont intelligents et qui connaissent la forêt rejoignent les îles qui surnagent au-dessus de l'eau qui s'étend partout.
Donde ellos pueden se salvar cuando hay mucha agua. Entonces ellos, sí, entonces ellos se van ahí en la isla a pasar todo el invierno.
Pendant la nuit, les animaux vont se baigner, se rafraîchir et puis vont cueillir des fruits, vont s'alimenter sur ces îles. Donc. À 15h20 de l'après-midi, la lumière devient de plus en plus belle
Et c'est un spectacle étonnant avec des lumières de plus en plus douces et des reflets sur le fleuve qui a une couleur noire. À tout moment, on observe des animaux. On a vu un singe nocturne il y a peu. On voit des perroquets, on voit le paukar qui est l'animal, cet oiseau qui imite les autres oiseaux. On a vu il n'y a pas longtemps un paresseux qui était accroché à un arbre avec son petit. Donc on a vu aussi un aigle, en fait un rapace, en fait chasseur de serpents et même chasseur de bébés de singes. Donc la forêt est riche de plein de choses et c'est extraordinaire de s'y balader comme on est en train de le faire en ce moment, en canoë, en faisant peu de bruit et avec des personnes qui évidemment sont d'ici et connaissent tous les animaux et sont capables de les repérer bien avant nous la plupart du temps et de les nommer même en ne voyant qu'une partie de l'animal passer fugitivement d'un coin à l'autre de la forêt.
Baita salasaca, que alegre caminas. Baita salasaca, que alegre caminas.
À 5 mètres de nous, un petit singe avec une queue noire. On voit très bien plusieurs petits singes, tête blanche, des sapajous. On arrive à Pozza Gloria. Bon, je suis avec Warren qui m'amène devant les caoutchoutiers qui se trouvent plantés dans l'eau pour l'instant, enfin la racine est dans l'eau. Alors il a taillé une entaille dans l'arbre et on met le doigt dessus, on voit la sève blanche qui coule et voilà ce qui a fait des richesses extraordinaires dans ce pays. Cuando fue la más explotación aquí?
La explotación del caucho en el año 1942, sea la explotación del caucho. Este es lo que estamos viendo ahorita, es un sembrado, o sea, y es un caucho muy bueno, ¿sí? Y se ve la resina.
Donc ça a commencé en 1942 et là on voit un caoutchouc d'une très très bonne qualité. Estos son caoutchouc natural, no plantada.
Natural. Caucho natural.
Ah, sí. ¿Y tu padre trabaja en este puesto aquí?
Sí. Mi padre trabajó acá cuando era joven, trabajó en este lugar. Por eso le da el nombre de Gloria.
¿Por qué Gloria?
Gloria es su nombre de su señora.
Ah. Donc son père a travaillé ici justement précisément dans les années 40 et il a donné en fait le nom de Gloria qui était le nom en fait de sa femme.
Sí.
Y por cuántos años ha laborado, ha trabajado por aquí?
Aproximadamente 10 años. 10.
10 años. ¿Y tú dónde nací?
Yo nací en Hamburgo.
Ah, ¿dónde es?
Hamburgo es de aquí navegando en canoa. 3 días más en el centro de la reserva.
Donc lui il est né à 3 jours de canoë dans encore plus profondément dans la réserve. ¿Es un pueblito?
No, era un centro de todos los trabajadores del caucho. Por eso lo han denominado Hamburgo.
Ah, il est né dans un centre où il y avait en fait tous les travailleurs du caoutchouc qui étaient réunis et alors quelqu'un lui a donné le nom de Hamburgo. ¿Tenía un alemán o no?
Sí, un hombre alemán le vino y puso ese nombre.
Ah, effectivement, c'est un Allemand qui a donné le nom de Hambourg pour souvenir par sa ville.
Ha bajado el comercio del caucho en el año 50 ya y entonces otras personas.
Donc effectivement, dans les années 50, des Anglais ont pris des graines et sont allés planter des caoutchouciers en Asie et à ce moment-là, le commerce a commencé à décliner.
Aquí tenemos en toda la selva tenemos bastante. Troncos de caucho.
Voilà, on est juste en dessous d'un canari orange qui a ce chant merveilleux. Mmh. poignet sur le micro. Alors voilà, on est vraiment dans la forêt vierge. Ouais, je suis derrière Warren qui ouvre le chemin à la machette, qui est devant le canoë et qui a décidé de nous emmener voir de la terre qui émerge des eaux. Et c'est la première fois sur ce deuxième jour de voyage qu'on arrive à voir de la terre tout simplement. Donc on s'est enfoncé sous des sous-bois, on doit baisser la tête pour passer, c'est de l'eau stagnante. Et alors voilà, effectivement on se fera un chemin comme ça très très lentement dans cette végétation hyper luxuriante. On touche enfin la terre et on va essayer de se lever pour aller voir ce qui s'y passe. Et il y a aussi la possibilité de croiser des serpents. Donc mieux vaut avoir des bottes. Bien que, comme me l'a expliqué Warren avant, certains serpents sont tout à fait capables de transpercer une botte. ¿Cuál es el serpiente más peligroso?
Bueno, aquí la serpiente más peligrosa es el chuchupi. El chuchupi es una serpiente que mide 2 metros y bueno, cuando nos muerde, la medicina es no tener miedo con nuestro amigo. Y la saliva se lo echa a nuestra boca y puede ser una buena medicina. Pero aparte de eso, tenemos más medicina.
Alors le chouchoupé, en fait, d'abord un serpent qui peut mesurer jusqu'à 2 mètres, qui a d'une part en fait du venin, et en plus il a encore du venin dans la queue. Donc le secret pour se soigner, c'est que la personne qui accompagne l'autre personne qui vient d'être mordue, elle doit si possible ne pas avoir peur, et si elle n'a pas peur, elle doit prendre sa salive et la mettre dans la bouche de la personne qui vient d'être mordue pour la sauver.
Tenemos medicina también para el chouchoupé. En la selva tenemos un árbol que se llama remocaspi. A remocaspi usted te vas y lo sacas, lo raspas un medio kilo y eso le pones en agua y eso le mueves, sale un líquido y ese líquido agregas un poco de orine y le das al paciente.
Donc le remocaspi, il faut le prendre, il faut prendre son écorce, il faut la presser et il faut la mélanger un peu avec de l'urine humaine. Et ensuite, on le donne au malade et là, ça peut éventuellement le sauver en fait de sa morsure. On est dégouliné à grosses gouttes. Il fait quand même vraiment, vraiment très chaud. Il va faire dans les 30 degrés.
Una hormiga roja que es muy tóxico, pequeño pero tóxico.
Comment se llama?
Se llama pukakuro.
La pukakuro, c'est une petite fourmi rouge, minuscule à vrai dire, et dont la morsure est toxique et très douloureuse.
Este es un nido de la hormigas cortadoras.
Ah, c'est les fourmis cortadoras, celles qui coupent, qui taillent les feuilles en morceaux. Juste devant une grosse fourmilière qui a accroché un arbre. Ah, voilà, on rampe sous les arbres pour se frayer un chemin. Un nid d'araignée. Avec des dizaines de petits araignées rouges. Je n'imagine pas une journée complète à marcher dans ces conditions. Avec la chaleur, c'est assez épuisant.
Stéphane Herzog, entre les serpents, les fourmis, la chaleur, l'humidité, c'est un milieu incroyablement hostile. Vos guides, eux, ils sont à l'aise dans ce milieu-là?
Parfaitement, ils rigolent, ils sont souriants. Pour eux, c'est un endroit qui est très sûr. Et puis, ce qui est le moins sûr dans la forêt, c'est les hommes qui pourraient rencontrer, des gens qui coupent la forêt, des trafiquants. Mais la nature en tant que telle, ils la connaissent très bien et ils sont très à l'aise.
Vous avez passé combien de temps dans cet immense marécage ?
Donc, on a passé 2 jours à descendre le fleuve, Samiria, et 1 jour à le remonter. Donc voilà, ça fait 2 nuits et 3 jours dans cet environnement très particulier.
On est avec Aladin dans la pension sur Piloti, sur le fleuve Samiria. Il vient de... Le gardien de la maison, Martial, vient d'aller pêcher au filet et il a ramené des poissons. Il y a plusieurs types de poissons qu'ils ont pêchés aujourd'hui, notamment des piranhas. Voilà, il prend le poisson, il l'écaille légèrement, ensuite il le coupe en deux par la moitié. Il enlève l'intérieur du poisson, il trempe dans le fleuve, il coupe la queue. Ensuite il coupe le poisson en quelques tranches et le poisson va être frit directement. Donc plus frais que ça, c'est pas possible. Voilà, directement à la casserole. Son yucas.
Yucas fritas, con pollo frito y un poco de arroz. Tenemos papas fritas y después con su agua. Va a ser el almuerzo porque estamos haciendo el almuerzo ahorita estas horas porque no hay tierra.
Voilà, il nous prépare du yucas avec un petit peu de riz. Et puis on est à terre, donc on est à terre puisqu'on est sur le pilotis, donc on peut vraiment cuisiner, faire du feu, préparer à manger correctement. Du soir et nous venons d'embarquer dans le canoë et la nuit est complète, il n'y a pas de lune pour le moment et nous partons avec Aladin faire une petite balade sur le Samiria. Aladin nous a expliqué avant que pas de problème pour se diriger de la nuit et il a comparé les rivières d'une forêt aux rues d'une ville en nous disant que si on était tout à fait capable de nous repérer dans une ville la nuit, eh bien eux ils étaient capables de se repérer dans la forêt la nuit et de rentrer à Lagunas à plusieurs heures de canoë sans se perdre et même sans lune. Donc nous voilà en route sur le Samiria avec nos lampes frontales qui balayent les abords de la forêt. La recherche des yeux des animaux nocturnes qui ont des pupilles évidemment complètement dilatées et qui réfléchissent la lumière. Voilà comment on peut les découvrir. Alors on navigue presque sans bruit et les lianes et les branches arrivent à la hauteur de nos têtes. Il est 21h, nous sommes entrés avec Aladin dans des sous-bois, mais des sous-bois à queue, puisqu'en fait on est toujours dans les Varzea, les régions qui sont inondées. Et on est passé là dans un coin où on devait vraiment baisser la tête pour passer, et c'était un coin à tarentules. On a vu plusieurs tarentules aquatiques se balader sur l'eau à côté de nous. Et quand on regarde bien les arbres avec la lampe de poche, on voit les yeux des araignées qui s'illuminent, de couleur verte comme ça. Et voilà, tout d'un coup, on commence à se gratter le dos ou se toucher la tête pour savoir si on n'en a pas une qui nous tombe dessus. Mais apparemment, ça n'arrive pas. En tout cas, Aladin a l'air tout à fait calme et on lui dit de ne pas nous inquiéter. Donc on est totalement, nous en tout cas, perdus, hein, puisqu'on a, on a fait des tours en passant d'une rivière à l'autre, d'un raccourci à l'autre. Et c'est vraiment bizarre. Voilà. On arrive vers une araignée encore plus grande. Donc pas de geste brusque. Donc quoi, on va chavirer le bateau. Alors c'est une mygale. C'est une mygale. Ouais. Alors là, il y a vraiment effectivement la mygale avec les pattes velues qui est logée sur un arbre en deux troncs. Voilà, le guide nous dit mucho, mucho. Donc il y a pas mal d'araignées et moi je tarde de partir d'ici. Quand le canoë commence à passer, enfin des branches commencent à racler la poupe du canoë, on se retourne un peu brusquement pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui est en train de monter sur le bateau. Donc c'est un peu tous les récits aussi sur l'Amazonie, et les récits de l'enfance qui remontent à la surface. Et voilà, on est un peu aussi assailli par notre propre imaginaire, puisque a priori les animaux ne nous sautent pas dessus.
Angoisse, peut-être même terreur nocturne, Stéphane Herzog, dans cette réserve de Pacaya Samiria. C'est ça qui est le plus impressionnant, c'est la nuit.
Bien, disons que dans la nuit, on ne voit pas ce qui se passe. Donc chaque brindille, chaque chose qui touche le corps peut laisser à penser qu'effectivement, il y a un serpent, il y a une araignée. Alors au début, c'est plutôt rigolo, plutôt excitant. Et avec l'accumulation, il n'y a pas de terreur, mais il y a une certaine tension qui s'installe. Parce qu'on imagine des bêtes partout, et c'est un environnement tellement peu familier qu'effectivement il y a un peu de tension qui s'installe.
Et vous parlez entre vous, avec les guides, avec Tom Tirabosco, ou bien vous écoutez la nuit ?
Alors, il y a des moments où c'est calme, où j'essaie où on s'éloigne un petit peu avec les canoës, et puis où je profite d'écouter en fait les bruits de la nuit. Et parfois, on est en file indienne et l'un et l'autre s'appellent pour dire « Eh voilà, attention, une tarentule, une mygale, une anguille. » Alors, on se retourne, on se regarde, on rigole. Bon, c'est bon enfant aussi.
Mmh. Oui, bon enfant, c'est le cas de dire. Ouais. Je suis pas sûr que ce soit pour tous les enfants comme ça. Stéphane Herzog, on arrive au terme de cette série de carnets de route. On est parti de Tarapoto, on est parti du pied de la cordillère des Andes, on est ici dans l'Amazonie. De ce voyage, 20 jours, quelle est l'image ou le son ou l'odeur qui vous a le plus frappé ?
En fait, je dirais qu'il y en a deux. Le premier son, mais qui fait écho à la forêt, c'est le son de l'anane que nous a chanté Albertine.
C'est pour moi, c'est indienne.
Voilà, c'est une espèce de blues amazonien qui est très puissant. Et moi, ça me donne des frissons. C'est vraiment quelque chose qui est très impressionnant. Et ensuite, c'est la forêt. Parce que d'une part, il y a un bruit permanent. Et en même temps, il n'y a aucun bruit humain. Et alors, c'est une situation sonore qui est complètement inédite. Et on est toujours en train de tendre l'oreille pour se dire « Mais est-ce qu'il n'y a pas un humain là-derrière ?» Non, c'est peut-être les singes hurleurs, c'est peut-être des insectes. Et cet environnement-là, ce son-là, est tout à fait extraordinaire.
Machai kuni nyanyitai, machai kujanila. Sisi machai kuni nyanyitai, machai kujanila. Machai kujanila nyanyitai, pakaya wankita. Machai kujanila nyanyitai, pakaya wankita. Thank you.
Tinku Inti Ilimani sur la première.
Infotrafic RSR.
On nous signale qu'en raison du grand nombre de visiteurs se rendant au salon Habitat et Jardin, le trafic est surchargé sur l'autoroute Lausanne-Vevey et des ralentissements sont signalés à l'approche de la jonction de Lausanne-Blecherette en direction de Vevey. Et puis les services de ferroutage de la Fourca reprendront normalement à 15h entre les gares d'Oberwald et de Réalpe. Et enfin, en Suisse alémanique, la route principale Lisbienne est toujours fermée dans les deux sens. Suite à un accident, une déviation est signalée. 14h33 sur la première, 8h33 à Lima, où nous sommes en direct et en ligne avec Christelle Barbier. Bonjour. Vous êtes journaliste, journaliste indépendante, installée à Lima depuis 2005. Vous êtes correspondante notamment pour Le Monde. Vous êtes également l'auteur d'un livre sur le Pérou, Pérou, ombre et lumière, qui est sorti en 2007 aux éditions Toute Latitude. Vous avez eu la possibilité d'entendre les dernières minutes du reportage de Stéphane Herzog. Vous connaissez cette région amazonienne ?
Oui, moi personnellement, je connais. J'ai eu l'occasion de voyager plusieurs fois grâce à mon travail de journaliste notamment. Et c'est vrai que c'est un rêve, je crois, pour en tout cas pour moi, européenne, c'est un rêve d'aller en Amazonie. Et c'est, ça vaut vraiment la peine de faire le détour.
C'est un rêve partagé par les autres Péruviens, ceux de Lima notamment.
Alors à Lima, c'est vrai que l'Amazonie, on n'en parle pas beaucoup. C'est étrange hein, parce que l'Amazonie, c'est quand même, comme vous l'avez répété plusieurs fois dans votre émission, 60% de ce grand pays. Mais l'Amazonie, quand on est à Lima, on la sent pas. Ça paraît très très loin. Et pour les Liméniens, les habitants de Lima, c'est quelque chose que souvent ils ne connaissent même pas. Mmh. En fait.
Pour les Liméniens, alors le regard se tourne pas vers l'est, comme c'est un pays quand même beaucoup construit du nord au sud, il se tourne vers où ?
C'est vrai que les Liméniens en fait, ont plutôt tendance à chercher à voir à l'étranger. Par exemple, quand les gens ont peu d'argent, ils vont partir en vacances aux États-Unis, au Chili, en Argentine, mais ils vont pas aller dans le reste du pays. Ils vont pas aller visiter l'Amazonie, ils vont pas aller visiter... Il y a beaucoup de Péruviens, par exemple, de Liméniens qui ne connaissent pas le Machu Picchu, le fameux Machu Picchu que les gens viennent visiter du monde entier. Beaucoup de gens ne le connaissent pas. C'est vrai qu'il y a vraiment cette volonté chez les Liméniens de voir surtout vers l'étranger, comme si à l'extérieur, tout était mieux. Mais c'est quelque chose qui est en train de changer. Moi, je suis par exemple à Lima, au Pérou, donc depuis 4 ans, et il me semble que les choses sont en train de changer. Parce qu'il y a aussi, je crois, au niveau mondial, une revalorisation non, de toutes des cultures indigènes, une revalorisation au niveau international, qui fait que du coup, les Liméniens commencent eux aussi à se dire « Ah ben tiens, en fait, il y a peut-être quelque chose chez nous qu'il faut qu'on mette en valeur ». Et donc c'est vrai qu'à Lima même, il y a de plus en plus de revalorisation aussi de ces cultures andines, des cultures amazoniennes. Enfin, je dirais, parce que c'est vrai que Lima est constitué de populations, en majorité de populations andines et de populations amazoniennes, mais qui sont des populations qui vivent leur culture chez elles, mais moins dans la rue, moins dans la ville elle-même. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui est en train de changer, vraiment.
Christelle, on vous entend très très mal, parce qu'il y a beaucoup de perturbations sur la ligne. Si vous êtes d'accord, on va vous rappeler, parce qu'on a quand même encore plein de questions à vous poser sur le Pérou, sur Lima. On va passer un tout petit peu de musique et puis on va vous rappeler, on va essayer d'avoir une communication un tout petit peu meilleure. Hein, à tout de suite.
D'accord, hein. À tout de suite.
Radio Suisse Romande, la première en hebdomadaire sur l'épaule.
Cova, cova. Cova, cova. Cova, cova. Cova, guaranco. Cova, cova. Cova. Cova, cova.
quema, quema, quema la vela.
Coba Garanco, c'est signé Nueva Lima, un groupe d'électro péruvien. C'est loin, le Pérou, c'est loin. Lima, il faut traverser l'Atlantique, il faut passer l'Amazonie, il faut traverser les Andes. Et on se retrouve à Lima, toujours en direct avec Christelle Barbier. On a fait des petits essais de lignes. C'est pas terrible, mais quand même. On va essayer de rester encore quelques minutes avec vous, Christelle Barbier. Je rappelle, vous êtes journaliste indépendante, correspondante, notamment pour Le Monde, auteur d'un livre « Pérou, ombres et lumières ». Vous nous parliez tout à l'heure de la vision que les Péruviens de Lima, la capitale, ont de l'Amazonie, une vision qui est en train de changer, j'imagine aussi à cause des richesses quand même qui sont dans cette région amazonienne. Dites-nous, Christelle, ces jours dans les rues, dans les ruelles, dans les bistrots de Lima, de quoi est-ce que parlent les gens ?
De quoi est-ce que parlent les gens ? Je crois que déjà, peut-être c'est un petit peu anecdotique, mais c'est vrai qu'on s'en rend moins compte en Europe. Ici, c'est la rentrée des classes, en fait, puisque à Lima, notamment, c'est la fin de l'été. Donc je crois qu'il y a beaucoup... Donc les jeunes se préparaient à reprendre l'école. Ils ont repris cette semaine. Et puis ben, y a, pour beaucoup de parents, c'est souvent une grosse préoccupation, puisqu'évidemment, la rentrée des classes, ça veut dire aussi beaucoup d'argent à dépenser pour permettre à leurs enfants d'avoir accès à l'école, ce qui est beaucoup moins facile que chez nous en Europe, malheureusement.
Et c'est une reprise morose à cause de la... On parle de la crise financière internationale. C'est une reprise morose, c'est une reprise joyeuse.
C'est une reprise, je sais pas si morose, mais c'est vrai qu'ici la crise internationale s'est pas vraiment fait sentir encore. Ce qui s'est surtout fait sentir, c'est la hausse des prix, l'inflation qui touche donc le pays depuis déjà une bonne partie de l'année dernière et qui a eu de grosses répercussions, notamment sur la partie la plus pauvre de la population, parce que je vous rappelle que le Pérou, c'est quand même un pays très pauvre, puisque plus de la moitié de la population vit au-dessous du seuil de pauvreté. Et évidemment, sur ces populations-là, la hausse des prix a eu des conséquences très graves, évidemment, puisqu'il y a beaucoup de gens donc, qui ont dû réduire le budget pour manger, et de fait, le budget pour l'école est encore réduit. Et c'est vrai qu'ici, l'éducation coûte très cher, il faut tout acheter, il n'y a absolument pas d'aide de l'État, et c'est très compliqué. Donc c'est vrai que les enfants sont toujours contents de retourner à l'école, mais pour les parents, c'est peut-être un peu plus compliqué.
De quoi d'autre parle-t-on dans les rues de Lima, Christelle Barbier, ces jours ?
C'est vrai qu'au niveau de la presse nationale, ces temps-ci, a abordé énormément la réforme de la police. Alors c'est vrai que ça paraît très, 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 très compliqué, tout ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui touche les gens de très près. Pourquoi ? Parce que les Péruviens considèrent que la police est l'institution de l'État la plus corrompue après le pouvoir judiciaire. Alors évidemment, la corruption, une corruption qui touche les hautes sphères, puisqu'il y a eu des scandales, notamment autour de mafias de l'essence, qui touchent donc les généraux et tous les hauts officiers de la police. Mais c'est aussi une corruption que les Péruviens sentent dans leur quotidien. Donc les Péruviens, qu'ils soient riches ou qu'ils soient pauvres, puisque donc tous les jours ils s'affrontent aux policiers, non seulement donc dans la rue, mais aussi dans les commissariats, ou pour faire simplement des documents administratifs. Et c'est vrai que donc c'est très... comment dire, les Péruviens en ont marre, tout simplement, et ils l'ont dit, ils l'ont exprimé de plus en plus fort, dans les enquêtes notamment, des dessous de table que demandent les policiers pour faire donc ces documents administratifs, pour fermer les yeux sur une infraction, pour faire baisser une amende. Et c'est vrai que c'est quelque chose que vivent vraiment les Péruviens au quotidien.
Ils ont été entendus.
Et donc justement, en fait, il y a eu un changement dans le gouvernement il y a 15 jours, et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est dans l'actualité du pays, puisqu'il y a donc un nouveau ministre de l'Intérieur qui est une femme, donc qui est arrivée à ce poste-là et qui a dit haut et fort qu'elle réformerait la police et surtout qu'elle mettrait fin à la corruption dans l'institution. Alors évidemment, la corruption dans l'institution policière, ce n'est absolument pas nouveau, mais elle a pris des mesures qui sont un peu plus concrètes et qui ont marqué les gens. Une mesure notamment, c'est que à Lima, Il faut savoir que la circulation routière est organisée par les policiers. C'est-à-dire qu'aux heures de pointe, on peut imaginer donc une grosse ville avec un trafic énorme et complètement chaotique, aux heures de pointe, il n'y a plus de feu, c'est les policiers qui organisent la circulation. Et en fait, depuis lundi dernier, il n'y a plus d'hommes dans les rues, d'hommes policiers, pardon, qui organisent la circulation, mais ce sont des femmes. Mmh. Alors pourquoi ils ont remplacé donc les hommes par les femmes? Parce que les femmes seraient perçues comme moins corruptibles, et donc aux yeux de la population et aux yeux des chauffeurs, et donc de fait, ce seront désormais des femmes, 2000 femmes dans les rues de Lima qui organiseront la circulation routière et qui vont donc s'occuper, elles, de mettre des amendes. Alors évidemment, les gens l'ont vu d'un œil plus ou moins bon, mais quand même, c'est plutôt bien vu, puisque la plupart des témoignages que j'ai pu recueillir sont que quand une femme policier te met une amende, eh ben, elle te la met et elle ne cherche pas à discuter. Donc c'est quelque chose qui a marqué les gens. Alors est-ce que ce sera une mesure effective ou est-ce que c'est plus une mesure qu'on pourrait dire de populiste, on verra dans les prochains mois.
Parce que cette mesure de mettre donc les femmes pour la circulation routière, c'est une mesure qui est limitée dans le temps ou bien comment ça va se passer?
Non, a priori non, c'est pas une mesure qui est... En tout cas, il faudra voir dans quelle mesure cela fonctionne, évidemment. Ce qui est rarement fait, malheureusement, au Pérou, il y a rarement des bilans des mesures qui ont été mises en place. Mais pour l'instant, non. Donc au contraire, ils sont en train donc de sortir les derniers hommes, les changer de poste. Donc, comme je disais, il y aura donc 2000 femmes qui sont désormais dans les rues de Lima. Et puis, il faudra voir. Ce qu'il faudra voir surtout, c'est que comment donc la population réagit par rapport à ces femmes policiers. C'est-à-dire qu'il y a quand même la crainte que dans certains quartiers qui sont plus dangereux que d'autres, ces femmes policiers soient plus mises en danger par rapport à la population de délinquants qui pourraient donc poser problème. C'est surtout ça qui va être évalué, je pense, dans les prochaines semaines.
Mmh. Merci beaucoup Christelle Barbier d'avoir été quelques minutes avec nous. Est-ce qu'on peut dire deux mots quand même, parce qu'on a suivi un tout petit peu ici l'affaire de l'ex-président Fujimori, qu'on surnommait El Chino, parce qu'il est d'origine non pas chinoise mais japonaise. On en avait beaucoup parlé à l'époque ici, parce que c'était pour nous aussi très étonnant d'avoir un président d'origine japonaise au Pérou. Il avait dû fuir son pays, c'était dans les années en 2000, je crois. Ouais, il avait dû démissionner même par fax. Parce qu'il était impliqué dans des scandales politico-financiers. Je crois qu'il y a un procès qui est en cours. Quelles sont les nouvelles de ce procès ?
Exactement. Alors c'est vrai que ça va être l'actualité au Pérou et puis dans le monde entier, en fait, là, dans les prochaines semaines, puisque ce procès entre dans sa dernière ligne droite. On devrait avoir un jugement à la fin du mois de mars, au début du mois d'avril, puisque donc je vous rappelle que Alberto Fujimori, donc, qui était l'ancien président péruvien de 1990 à 2000, est aujourd'hui accusé de violation des droits de l'homme. Il est accusé d'être l'auteur intellectuel de l'assassinat de 25 personnes au début des années 90, qui était, je vous rappelle, donc à ce moment-là où le Pérou était vivait en pleine terreur causée par la guérilla maoïste du Sentier Lumineux et par la répression militaire. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un procès qui est très important et qui est même historique au niveau international, puisque c'est la première fois qu'un président est jugé par la justice de son pays pour des violations pour des crimes de cette ampleur, des violations des droits de l'homme. Mmh. Donc c'est quelque chose qui est très important. C'est important aussi donc au niveau national, parce qu'Alberto Fujimori, c'est un personnage emblématique ici. Il est détesté par beaucoup, mais il est aussi adulé par beaucoup d'autres. Et donc c'est vrai que le Fujimorisme aujourd'hui est encore une force politique qui est très importante et qui pourrait jouer un grand rôle dans les prochaines années. Donc il faudra voir ce qui va se passer donc durant ce jugement en première instance. Alberto Fujimori pourrait être condamné à 30 ans de prison.
Mmh. J'ai lu aussi qu'il allait peut-être aussi se représenter au 2011 au présidentiel. C'est du bluff ?
Il faudrait pour ça qu'il soit en liberté. Non, Alberto Fujimori, de toute façon, a été condamné déjà à une peine de prison de 6 ans. Donc il ne sera pas en 2011. C'est cuit pour lui, en tout cas en 2011. Il a aussi 72 ans, je crois, là. Donc il commence à être vieux. En revanche, celle qui a un futur politique devant elle, c'est sa fille, Keiko Fujimori, qui, elle, donc, a priori, c'est encore pas officiel, mais qui devrait se présenter en 2011, donc à la présidentielle. Et c'est vrai que Keiko Fujimori est très aimée au Pérou, parce que donc c'est la fille de son père. Elle a défendu son père dans les pires moments. C'est quelque chose que les Péruviens lui reconnaissent. Même ceux qui n'aiment pas Alberto Fujimori reconnaissent cette loyauté qu'elle a eue envers son papa, quelque chose qui est très important pour les Péruviens, cette valeur de la famille toujours toujours très présente. Donc il faudra voir dans les prochaines années, bientôt, ce qui va se passer. C'est vrai que le jugement va avoir des conséquences.
Merci beaucoup Christelle Barbier d'avoir été quelques minutes avec nous en direct. Ça valait la peine de vous rappeler parce que la ligne était nettement meilleure. On va se quitter avec une des grandes voix du Pérou, Susana Baca. On peut vous l'offrir?
Ah, ce serait parfait.
Merci beaucoup. On l'écoute. Bye bye.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Hablan los negros del Congo, hablan los negros del Congo, contestan los de Tumán, contestan los de Tumán, alan durundurundurunda. Hablan los negros del Congo, hablan los negros del Congo, contestan los de Tumán, contestan los de Tumán, alan durundurunda. Los de Lambaye que dicen, los de Lambaye que dicen, ensaña cómo estarán, ensaña cómo estarán, alan durun durun durunda, alan durun durun durunda. ¿De dónde vienes, vienes? ¿De dónde vienes, hora? Y vengo de la laguna y de Sega, totora de
Del Combo, c'est signé Susana Baca sur la première. Semaine prochaine, on va donner un demi-tour au globe terrestre. On sera d'ailleurs pas très loin du Japon, dont on parlait tout à l'heure, avec une nouvelle série de carnets de route signée Muriel Jarpe.
Depuis que vous êtes à Pékin, vous avez toujours fait ce travail? Nani, là, dans Beijing, il faut, il y a toujours fait ce travail.
Oui, il y a toujours fait ce travail.
Tu es dans ce Yonghe Gongda, tu es là.
Oui.
Oui, donc depuis qu'on est arrivé à Pékin, on a toujours fait ce travail ici. Et c'était facile à trouver ou comment ça s'est passé? Non, c'était pas facile à trouver. C'est un ami qui nous a fait part de ce travail. Et puis votre fille, là, elle est à l'école, j'imagine. Non, vous, votre fille, je pense qu'elle est en train de faire l'école. Oui,
elle est en train de faire l'école. Elle est en train de
faire
l'école.
Elle est en train de Oui, elle est à l'école en deuxième année. Et puis ça, là, il y a un petit carnet vert qui est suspendu. Qu'est-ce que c'est?
Ah,
c'est le registre du travail. Alors, les miens, je suis au cric. Les miens, on peut regarder dedans. Ah, ok. Ah, voilà, donc faut cocher les cases pour s'assurer que tout a bien été fait. Donc l'intérieur, l'extérieur, mettre l'heure et puis la signature. Et puis Pékin, pour vous, c'est comment ? Très bien. Chendama, vraiment ? Et pourquoi est-ce qu'elle est très bien ? Je ne sais pas vraiment. Par exemple, quel est l'endroit que vous aimez beaucoup à Pékin ? Je sors très rarement. Et puis les gens, par rapport aux gens du Hebei, comment est-ce qu'ils sont ? Ils sont tous pareils. Donc, qu'est-ce qui fait que Pékin est si bien ? En fait, on a très, très peu d'interactions avec les Pékinois. On fait notre travail et eux nous méprisent. Et lorsque j'ai demandé pourquoi, elle a dit « on nettoie les toilettes ».
Des rencontres que vous propose Muriel Jarp la semaine prochaine. De qui s'agit-il, Mélanie Crovalian ?
Il s'agit d'une des rencontres justement qu'on entendra toutes faites dans les rues de Pékin. Là, c'est Li Sui. Elle travaille, on l'a compris, comme préposée au nettoyage des toilettes publiques à Pékin. C'est un peu dame pipi, mais ce qui est moins commun et ce qui n'est pas du tout commun aux dames pipi qu'on a ici, c'est qu'elle vit aussi dans ces toilettes-là avec son mari, avec leur fille de 8 ans, dans une minuscule pièce entre la partie homme et la partie femme. En fait, ils se partagent le travail. Li Sui nettoie le côté femme et son mari le côté homme. C'est un métier, elle l'a dit, qu'ils exercent depuis qu'ils sont arrivés à Pékin. Il y a plusieurs années, ils sont arrivés du Hebei, c'est une province au nord de Pékin. Ils sont contents d'avoir ce métier. On a entendu aussi qu'il leur a fallu un entremetteur pour l'obtenir, un ami qui leur a obtenu ce travail. Pourtant, c'est très difficile. Ils se lèvent à l'aube, ils travaillent. Le minimum qu'ils travaillent, elle a dit à Muriel Jarp, c'est 16 heures par jour. L'heure du lever habituel, c'est 5h30. Et on l'a entendu, ils sont méprisés en plus par beaucoup de Pékinois. D'autres Pékinois nous en entendront aussi la semaine prochaine dans les portraits chinois de Muriel Jarp. On découvrira que la vie n'y est pas facile. Les revenus sont bas pour le peuple de Pékin. Par exemple, pour Li Sui et son mari, c'est 400 francs par mois pour les deux. Ce salaire est très souvent consacré à l'éducation de l'enfant unique. Là, ils consacrent tout aux frais d'éducation de leur fille. Autre problème, les températures. En hiver, elles descendent jusque bien en dessous de 0 degré. On a souvent très froid. Là, Li Sui raconte qu'elle vient d'avoir un chauffage pour sa petite chambre. Avant, ce n'était pas chauffé. Ça n'empêche pas les Pékinois d'être particulièrement actifs, même à un âge assez avancé. Les parcs, on l'entendra, pullulent de retraités qui jouent au badminton, qui font de la danse, de la gymnastique, qui nagent aussi dans les eaux glacées des lacs, même au milieu de l'hiver pékinois. Et c'est cet hiver pékinois que nous découvrirons la semaine prochaine. Nous y rencontrerons entre autres DJ Yang Bing, patron d'un club underground au nord de la ville, et Xing Lu, alias Amanda, une Pékinoise francophone qui nous racontera sa vision chinoise de l'Algérie. Vous ne le verrez, pas toujours politiquement correct.
Pékin, portrait chinois, c'est donc une série de reportages réalisés par Muriel Jarp à découvrir dès lundi, 14h, sur la première. Et ça c'est Kung Fu Impulsion.
已经放着你的行李，我看着时钟，从九点走向十点钟，他会准时来接你，带你搬出我的回忆。你亲手做的蛋糕依然香甜，上面22颗蜡烛已经渐渐快要熄灭。我们还是什么话都没有说，难得沉默我知道你的心在飞，手里攥着空酒杯。你说今天不喝酒，他会不喜欢。我说我也不想喝，我怕醉倒没人管。终于又看到你久违的笑容，就像最初走向我是那个美丽的梦。 从前对酒精过敏，自从和你在一起，你的温柔蛮横让我变得没脾气，情愿在每天睡前都陪你喝两杯。我亲手调的Bloody Mary，我在纵容着你，是他改变了你。我想这就是他能把你带走的原因。我应该知道不是爱你就能给你幸福，面对现实我就像是一片落叶，一将无助。楼下传来停车声，宣告电影已散场。作为悲剧男主角，我的笑很勉强。最后的对白对你已经没有任何意义，门已经敞开了，只能看见空的楼梯。你曾说过。
Voilà, on arrive presque au terme de cette émission. Et avant de se quitter, vous donner des nouvelles de Juan Lozano. Vous vous rappelez peut-être, il était venu. C'est un invité qui est réalisateur suisso-colombien. Il était venu à l'occasion d'une série de reportages en Colombie pour un documentaire consacré à Holman Morris, journaliste colombien. Et il nous avait raconté, Juan Lozano, qu'il était en train de réaliser, de préparer un voyage en Colombie pour réaliser un documentaire intitulé Impunity, consacré au procès en cours d'un paramilitaire, un des chefs paramilitaires responsables du massacre de milliers de civils, chef paramilitaire en Colombie. Eh bien, Juan Lozano a dû abandonner son projet, il a dû rentrer, ou en tout cas quitter le pays suite à des menaces qui ont été adressées à ce réalisateur et à sa société de production, des menaces anonymes. Mais parallèlement à cela, Holman Morris, donc, qui était le journaliste vedette, qui lui-même était co-auteur de ce documentaire, avait été aussi lui-même contraint il y a un mois de renoncer à ce tournage suite à des accusations formulées cette fois directement par le président colombien Alvaro Uribe. On essaiera d'avoir des nouvelles de Juan Lozano pour qu'il nous parle de ce qui s'est passé avec le tournage donc en Colombie de ce documentaire. Voilà, merci toute cette semaine à Samuel Morier-Genoux en régie, à Stéphanie Coudray, notre assistante de production, Nathalie Schoenberg a choisi les musiques, Dani Sulam, responsable de notre site dromadaire.rsr.ch, un site où vous pouvez vous abonner à nos émissions, un site également où vous pouvez nous faire part de vos remarques, de vos critiques. Merci également à Monsieur T qui a réalisé les carnets de route. Stéphane Herzog, Cyril Desprez, excellent après-midi, très bon week-end. Il va être 9h du matin à Lima, 22h à Pékin, 15h sur la première.